Vous êtes sur RTL.
Il est 9h. RTL Matinée, Yves Bonfignon, Stéphane Carpentier.
Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité de ce samedi, les gilets jaunes, un an déjà, ils descendaient pour la première fois dans la rue le samedi 17 novembre 2018.
Et que reste-t-il de ce mouvement de contestation qui au premier jour avait mobilisé près de 282 000 personnes selon les autorités? Les mois ont passé, les violences ont été de plus en plus nombreuses, contrairement aux manifestants. Ce premier anniversaire permettra-t-il de retrouver un second souffle? Ce qui est certain, c'est que depuis le début, des gilets jaunes n'ont rien lâché, se sont réunis chaque week-end sur des ronds-points. Serge Puyot, vous en avez rencontré pour RTL, des irréductibles à Crolles, en Isère.
Au pied du massif de la Chartreuse, dans la zone commerciale de Crolles, la cabane des gilets jaunes est plantée sur le rond-point des Rafours depuis un an, un anniversaire qui se fête.
Joyeux anniversaire!
Pascal est là depuis le début.
C'est magnifique, hein. Ça fait chaud au cœur, toute cette ferveur. C'est une deuxième famille. Un an qu'on est là, que ce mouvement perdure, c'est merveilleux.
Pierre, 81 ans, réalise les pancartes qui fleurissent sur le rond-point. Son surnom?
Ah ben c'est Papy Pancarte.
Vous avez fait combien de pancartes en un an?
Je pense que je suis être à 150. Par exemple, celle qui est là, où il est marqué « Gilets jaunes ne se dissout pas dans le temps ». La preuve, ça fait un an qu'on est là.
Pour Gaël, carreleur de profession, rien n'est réglé.
C'est des mesures qu'il a annoncé. Macron a endormi tout le monde. C'est sa stratégie.
Aurélie est vendeuse sur les marchés.
Je suis toujours à découvert le 5 du mois. Comme beaucoup de personnes ici, on a beaucoup qui sont dans la merde, qui n'arrivent pas à se nourrir normalement, qui n'arrivent pas à être logés normalement. Il faut que Macron il nous entende parce que nous, on ne lâchera pas.
Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron...
Le reportage de Serge Puyot pour RTL. Depuis quelques mois, on le disait, le mouvement s'est fortement essoufflé. Alors aujourd'hui, ce premier anniversaire va-t-il remobiliser les troupes? En tout cas, Guillaume Chiez, les autorités s'y préparent, et ce, sur tout le territoire.
Oui, plus de 200 actions sont prévues sur toute la France. Tractage, manifestation, occupation de ronds-points. Mais une inconnue subsiste. Les gilets jaunes parviendront-ils à mobiliser autant que l'an dernier? Cela va déterminer l'ampleur de leur mouvement aujourd'hui. Soit ils seront suffisamment nombreux, ils pourront alors défiler dans les centres des grandes villes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Lille ou encore Montpellier. Soit ils se rabattront sur les ronds-points pour les occuper comme au début du mouvement. Évidemment, cela n'implique pas la même gestion pour les forces de l'ordre. Policiers et gendarmes se tiennent prêts. Ils s'attendent même à faire face à des actions plus violentes, puisque pour cette date anniversaire, les gilets jaunes ont appelé à un soulèvement de la population.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL. À Paris, dispositif spécifique, de nombreux périmètres sont bouclés, y compris près des grands magasins. Sachez que plusieurs stations de métro sont fermées et à l'instant, on apprend qu'une opération est en cours sur l'axe Toulouse-Bordeaux sur l'A62 vers la sortie 3. C'est précisément entre Bordeaux et Agen. Une trentaine de manifestants sont près des voies. Attention donc si vous êtes au volant.
Et puis ce matin, toujours 190 000 foyers privés d'électricité. Ça commence à faire long.
Depuis jeudi, l'Isère, l'Ardèche, le Rhône, la Loire, les Alpes de Haute-Provence ainsi que la Drôme subissent les conséquences de la neige. Au sud de Valence, dans le village de Chabeuil, Benjamin tente de garder le sourire. Mais vous allez l'entendre, ça commence à devenir un petit peu compliqué.
On a réussi à se faire chauffer des patates avec un poêle à bois, on a réussi à faire chauffer un café, et du coup, ben voilà, on a un jeu de société et en avant gagnant.
Et la nuit, comment ça se passe pour dormir?
Ben, c'est la misère. Moi, j'ai la chambre, j'ai rien du tout, hein. C'est deux doudounes et puis pyjama et on attend. Hein. Après, on est habitué avec le froid.
Les propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. Pour l'heure, il neige actuellement sur l'A89 entre Brive et Clermont-Ferrand dans le massif du Sancy. Attention près des sorties 25 et 26. Des chasse-neige sont en action. Opération de salage en cours sur l'A51 près de Sisteron. La chaussée est glissante, attention là aussi. Et sur l'A72 à l'ouest de Lyon, on sale également.
Dans le reste de l'actualité, marche arrière toute à l'Assemblée nationale concernant l'huile de palme.
Jeudi, les députés avaient voté un amendement qui prévoyait un report, en fait, qui permettait à ce produit de rester dans la liste des biocarburants qui bénéficient d'un avantage fiscal jusqu'à 2026. Cela a provoqué un tollé, à tel point qu'Édouard Philippe est intervenu en personne pour demander un second vote, mais il n'a pas été suivi. C'est même tout le contraire, Vincent Derosier.
Oui, après 48 heures d'un improbable couac, le gouvernement a été désavoué, humilié même par sa propre majorité. Un revers adressé hier soir dans l'hémicycle avec un vote massif contre l'amendement du gouvernement. Et pourtant, jusqu'au bout, l'exécutif a tenté de convaincre sa majorité en expliquant que prolonger cet avantage fiscal pour l'huile de palme était un bon compromis entre sauver l'emploi et assurer la transition écologique. La ministre de l'Environnement, Elisabeth Borne, a elle aussi demandé aux parlementaires d'être raisonnables. En vain, les députés En Marche ont dit non à l'huile de palme et au gouvernement. Hors de question de revenir sur ce qu'on a voté l'année dernière, ont-ils expliqué en substance. Un conseiller gouvernemental reconnaît que c'est la fin de l'histoire. Le gouvernement reconnaît donc son échec. Un échec aussi pour Emmanuel Macron, qui tente plus que jamais de verdir son discours à 5 mois des élections municipales.
Vincent Derosier du service politique de RTL. 20 ans de réclusion, le verdict est tombé très tard aux assises d'Évreux hier soir. L'homme de 52 ans qui travaillait comme maître nageur a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle aggravée sur mineur. Les faits se sont déroulés entre 1994 et 2011.
Vous restez bien avec nous, la suite dans un instant avec un énorme scandale au Canada. Dans les années 50, la CIA s'est servie de patients québécois comme cobayes. On va tout vous expliquer.
Suite de RTL Matin 9h09, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier.
Et donc Agnès, au Canada, c'est une affaire sordide qui fait la une de l'actualité.
Oui, au Québec, précisément, des centaines de patients qui étaient soignés dans les années 50 et 60 pour des dépressions ou des douleurs dans un institut psychiatrique de Montréal ont été torturés pour le compte de la CIA. En fait, Alexis Gacon, les renseignements américains pensaient avoir trouvé les parfaits cobayes.
Après la guerre de Corée, la CIA croit que les communistes ont trouvé la clé du lavage de cerveau et les Américains veulent l'avoir aussi. En pleine guerre froide, ils réalisent à Montréal des expériences de manipulation cérébrale. L'objectif, effacer la mémoire de patients lambda pour voir s'ils peuvent reprogrammer leur psyché à des fins militaires. Pendant près de 20 ans, des centaines de Canadiens, comme la mère de Chantal, ont subi ces expériences à base de LSD ou d'électrochocs.
Selon le rapport, elle a commencé à manifester des symptômes de schizophrénie durant les sessions d'électrochocs. Il y a des instants où elle pensait que les nazis venaient la chercher.
Julie a vu, elle, son père soigné à l'Institut pour des douleurs au visage. 50 ans plus tard, elle souffre encore de ce qu'il est devenu.
Quand ma mère a pu revoir mon père après le traitement, il avait l'air d'avoir 5 ans et parlait comme un bébé. Dans le dossier médical, il disait qu'il n'était pas content de ses progrès car il gardait des liens avec son ancienne vie. J'ai 66 ans et je pleure toujours à cause de ça.
Avec le recours collectif lancé contre le gouvernement canadien, Chantal, Julie et près de 500 autres personnes touchées souhaitent que le Canada reconnaisse enfin avoir participé au programme, ce qu'il n'a jamais fait.
Le reportage d'Alexis Gacon au Québec pour RTL. Aux États-Unis, Donald Trump perd une nouvelle fois ses nerfs alors que l'ex-ambassadrice américaine en Ukraine était entendue par le Congrès américain dans le cadre de l'enquête en destitution. Eh bien, au beau milieu de son témoignage, le président a publié des tweets au vitriol contre la diplomate, sachant que l'audition est retransmise en direct à la télévision.
Alors que nous parlons, je vois le président Trump qui tweete. Partout où cette femme a été, ça s'est mal passé. Vous voulez répondre à cette attaque ?
Je crois que là où j'ai servi, moi et d'autres personnes, nous avons amélioré la situation.
Et quel effet ça peut avoir sur un témoin ?
C'est très intimidant. Je ne peux pas parler pour le président, mais je crois que l'effet recherché, c'était bien l'intimidation.
Les démocrates dénoncent une pression sur un témoin qui pourrait alimenter évidemment le dossier d'accusation contre le président des États-Unis.
Une fois n'est pas coutume, Agnès, commençons la page des sports avec le rugby.
Un week-end de Coupe d'Europe, ça n'a pas été simple pour Toulouse qui s'est bien accroché pour l'emporter hier à Gloucester à 25-20. Rencontre franco-britannique également cet après-midi à La Rochelle avec les Anglais d'Exeter à 16h15. Clermont reçoit à 18h30 les Arlequins de Londres. Et puis en foot, aucun suspense. Demain, les Bleus jouent en Albanie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020, mais ils savent qu'ils sont déjà qualifiés. Ça ne va pas empêcher de faire la fête. Ce sera le 100e match de Didier Deschamps en tant que sélectionneur. Et pour l'occasion, il a accordé un bel entretien au service des sports de RTL.
J'aime bien les nombres à 3 chiffres, donc 100, ça a une valeur symbolique. Je me sentais très responsable le fait d'être de joueur, et c'est mon mérite en tant que sélectionneur, évidemment que j'ai le mérite aussi avec mon staff, mais c'est grâce aux joueurs, avoir cette longévité en tant que sélectionneur de nos jours, il faut des résultats, donc je pense que nous les avons eus, mais oui, c'est une fierté personnelle, je vais pas me regarder un peu plus dans le miroir ou quoi que ce soit, mais d'avoir fait le double-double, 100 et 100 dans ma première vie en tant que joueur et en tant que sélectionneur.
Les 100 buts, ça va être compliqué pour le triple-double. On s'en tiendra au double-double.
Si je compte ce que j'ai mis à l'entraînement, peut-être j'y arriverai encore.
Didier Deschamps à réécouter en longueur sur notre site rtl.fr, évidemment. Et la Finlande est également qualifiée. Ça, c'est historique. C'est une première. La Suède a également décroché son billet.
rtl.fr, toute l'actualité. Merci beaucoup, Agnès Bonfillon, pour tout savoir. Vous allez cliquer sur le premier site Radio de France.